Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Nelly Dali.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première édition du journal en ce jour de célébration nationale. La Côte d'Ivoire fête aujourd'hui ses 65 ans d'indépendance. Comme à l'accoutumée, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation à la veille de la fête. Entre bilan de son action, appel à l'unité et mesures sociales, plusieurs annonces ont marqué les esprits. Vous entendrez quelques-unes. Nous irons dans la région du Gbeke, précisément à Boaké, qui accueille la cérémonie officielle de ce 65e anniversaire, avec notamment un défilé militaire et une fresque culturelle signée Georges Monboy. Nous ferons un tour en Turquie où le président sénégalais Ousmane Sonko est en visite officielle pour renforcer les liens économiques. Et puis en fin de journal, nous reviendrons à Boaké à la rencontre de Moumoun Koulibaly, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Avec lui, nous aborderons une page de mémoire de la première fête de l'indépendance organisée à Boaké en 1964. La Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi son 65e anniversaire d'indépendance. Comme le veut la tradition, avant les festivités, le président Alassane Ouattara s'est adressé aux Ivoiriens hier mercredi. Dans son adresse à la nation, il a dressé le bilan de ses grandes réformes. Concernant la prochaine échéance électorale, le chef de l'État a lancé un appel à la responsabilité de tous les acteurs politiques.
Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère.
À l'instant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sur l'échéance électorale qui aura lieu bientôt en octobre. Le chef de l'État a également annoncé une révalorisation des primes annuelles des fonctionnaires, agents de l'État et retraités. On l'écoute.
Dans la continuité de cette dynamique et de notre engagement à faire des efforts chaque fois que nos finances publiques le permettent, j'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à deux tiers du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à deux tiers de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. J'encourage le secteur privé à également faire un effort pour leurs employés.
Dans un esprit d'apaisement, le président a également signé deux décrets, une grâce présidentielle pour 2087 détenus et une remise de peine pour 6446 prisonniers ayant un reliquat de peine inférieur à 3 ans. C'est une ambiance festive qui prévaut ce 7 août à Boaké, la ville qui accueille la cérémonie officielle du 65e anniversaire. Un événement que les populations, mais surtout les autorités locales, accueillent avec joie, honneur et aussi beaucoup de responsabilités. Des autorités qui entendent offrir une image positive de leur cité. Sur les dispositions prises pour relever ce défi, écoutons Diezao Lago-Ruffin, secrétaire général de la mairie de Boaké.
Il y a eu un comité local qui a été créé avec à sa tête le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Boaké, et la coprésidence du préfet de la région de Gbeke, préfet du département de Boaké. Les différents directeurs régionaux, selon leur domaine de compétence, ont été associés en tant que responsables de commission. Et sur le terrain, vous constaterez qu'il y a eu le ravalement, le marquage au sol. On a rafraîchi tout ce qui est édifice public pour la plupart. Et des dispositions ont été prises en termes de disponibilité en eau, en nourriture, pour que les délégations qui vont venir soient accueillies dans les conditions les meilleures. Donc Boaké, qui renaît de toutes ces années de crise, va prouver au monde entier que Boaké est vraiment de retour après toutes ces années sombres.
Cette année, le traditionnel défilé militaire sera rehaussé par une fresque carnavalesque conçue par le chorégraphe ivoirien Georges Momboy. À travers cette création artistique, il promet de revisiter le patrimoine culturel ivoirien tout en mettant en lumière les infrastructures modernes du pays.
Nous allons déployer une fresque carnavalesque qui s'infiltre dans le défilé militaire. Je vais déployer toute la quintessence des cinq grandes régions de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la richesse culturelle, artistique, la créativité des jeunes, de nos cultures qui inspirent nos jeunes. Tout ça se traduit à travers 9 chars. Sur chaque porte-char, on a mis en valeur la royauté de nos grandes régions et les symboles les plus forts. On commencera avec le char du sud qui annonce le tambour à Djokwe, Djidji. Et ensuite, on a la région qui se déploie à travers les Achans. Il y a ensuite la région de l'Est qui se déploie aussi à travers les Koumians. Après, nous partons au nord, notamment la morsure de Kong, qui est pour moi l'œuvre la plus emblématique de notre patrimoine culturel. Là-bas aussi, on déploie toutes les danses. Et ensuite, on va vers l'ouest. L'ouest avec ses belles montagnes, ses cascades. Et ensuite, on vient vers le centre 1, qui est Yamoussoukro, le lieu de notre père fondateur. Et ensuite, on a le centre 2 qui est Boaké, qui accueille, là où on met encore en valeur toute sa richesse. Donc, à chaque décor, il y a un déploiement artistique, culturel, comme un village vivant, comme une Côte d'Ivoire vivante, devant chaque porte-char. Ensuite, la jeunesse qui symbolise l'avenir, donc la continuité. Et ensuite, on a la modernité qui met en valeur toutes les infrastructures de notre président, toutes ses réalisations. Donc, c'est vraiment une fresque qui voyage vers une Côte d'Ivoire en marche.
Vous avez écouté successivement Diezao Lagou Ruffin, secrétaire général de la mairie de Boaké, et Georges Momboy, chorégraphe, tous deux interrogés par Mardoché Kouassi, notre envoyé spécial à Boaké. Toujours à l'occasion de la fête nationale, professeur Mohamed Nguessan, enseignant en histoire politique à l'université Félix Houphouët-Boigny, appelle à tirer les leçons du passé pour construire une unité nationale durable.
Il faudrait que les uns et les autres tirent les leçons de notre passé, les leçons surtout de nos difficultés, de ce qui a essayé de plonger à un moment donné la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Dieu merci, nous sommes sur le bon chemin, mais moi je pense que le défi des générations présentes est de laisser aux générations futures un pays apaisé, un pays où les élections ne feraient peur à personne, à l'instar du Sénégal, à l'instar, je dirais même, du Ghana. C'est ce qui doit être le meilleur héritage que nous pourrons laisser aux générations futures.
Alors, justement, aujourd'hui, on est à l'approche des élections. Quel est l'appel de l'universitaire que vous êtes?
C'est un appel au calme. Il n'y a pas plus grand que le pays. Il n'y a pas plus grand que la nation ivoirienne. Les hommes passent, le pays demeure. Le président Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, s'en est allé, mais la Côte d'Ivoire continue sa marche. Je pense qu'il faudrait que le tissu de l'unité nationale soit maintenu à l'état et que tout doit être fait par le dialogue pour préserver l'intérêt des Ivoiriens et des Ivoiriennes.
Professeur Mohamed Nguessan, enseignant en histoire politique à l'université Félix Houphouët-Boigny, dans des propos recueillis par Jean-Claude Comi. Tout autre chose à présent dans l'actualité politique, des inquiétudes persistent autour des arrestations de militants du PPACI présumés coupables dans les violences survenues récemment à Yopougon. Ils sont toujours introuvables selon leur avocat, maître Sylvain Tapi, qui appelle le procureur au respect des droits élémentaires de ses clients.
Le lundi, le 4, je me suis rendu personnellement au bureau du procureur pour déposer ma lettre de constitution. Et j'ai demandé à ce que le bureau du procureur nous aide à localiser les clients. Donc j'ai déposé aussi une lettre dans ce sens. À ce jour, je n'ai toujours pas la réaction du monsieur le procureur. Je ne sais donc pas à ce jour où sont mes clients. On ne peut même pas les localiser. Je n'ai pas de leurs nouvelles. Donc, encore moins, les parents n'ont pas de nouvelles de leurs parents qui ont été arrêtés le dimanche très tôt le matin.
Mais au niveau de la procédure, est-ce qu'il y a un délai?
Il n'y a pas de délai, mais déjà on est au-delà. Dès lors qu'une personne a été arrêtée, immédiatement la personne a droit à l'assistance d'un avocat.
Vous souhaiteriez rencontrer les prévenus?
Tout à fait. Les localiser et leur rendre visite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on leur reproche, que s'est-il passé. Ils ont quand même le droit d'être assistés par un avocat. C'est un minimum constitutionnel. C'est un principe général de droit. On ne peut pas arrêter des gens nuitamment, les emmener à un endroit inconnu sans qu'ils ne puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat. C'est inacceptable.
À l'instant, maître Sylvain Tapi, avocat des présumés coupables à PPACI, arrêté récemment à Yopougon. Ces interpellations font réagir le COSCEL, le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Son coordonnateur Drissa Soulama déplore ces événements qui pourraient ouvrir la boîte de Pandore. Il lance donc un appel aux différentes couches du pays.
Nous déplorons ces actes qui sont passés, qui sont une destruction effectivement des biens publics et matériels. Nous sommes dans une situation préélectorale qui est pratiquement sensible. Donc ce sont des actes que nous devons effectivement éviter, comme on le dit le plus souvent, pour éviter de mettre l'huile sur le feu. Parce que ce sont des actes qui peuvent appeler encore à d'autres violences par ailleurs. Donc il faut proscrire tous ces comportements au sein de notre société pour éviter que les élections qui viennent soient des élections violentes. Nous voulons lancer un appel aux acteurs politiques de tous bords de tout mettre en œuvre pour non seulement sensibiliser leurs militants sympathisants à la non-violence, à privilégier effectivement les voies de recours qui sont prescrites par les voies légales pour éviter effectivement que la Côte d'Ivoire plonge encore dans ces violences que nous avons connues par ailleurs les années antérieures. Lancer un appel également aux populations de rester sereines pour éviter les confrontations entre militants de camps opposés et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche vers la démocratie.
Drissa Soulama, coordonnateur du consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Direction le Niger où le premier ministre sénégalais est en visite officielle en Turquie. Ousmane Sonko est arrivé à Ankara hier mercredi pour un séjour de 5 jours à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants doivent se rencontrer cet après-midi pour discuter des partenariats économiques entre leurs pays. Le Sénégal veut renforcer ses relations stratégiques avec les grandes puissances. Cette visite s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal 2050 axé sur la relance de la diplomatie économique. En sport, le FC San Pedro a remporté hier mercredi la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny 2025 en battant le Stade d'Abidjan 1-0 en match disputé au Stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Le point de cette rencontre avec notre envoyé spécial César Yao.
Un but de Kamagaté Draman à la 77e minute a suffi au bonheur du FC San Pedro pour s'approprier cette Super Coupe 2025. Malgré la victoire, il faut continuer le travail, nous a confié le capitaine des Oranges et Noirs, Franck Amos Johan.
Je suis vraiment fier de mes coéquipiers, nous avons beaucoup travaillé. On était prêts du début jusqu'à la fin, on n'a rien relâché, on a profité des erreurs. Voilà, ça paye. On va continuer à travailler parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a encore plein de surprises devant.
Le stade d'Abidjan qui enregistre 6 nouvelles recrues dans son 11 entrants a encore du temps pour parfaire son équipe. Le capitaine Touré Ben Seydou est malgré tout très amer.
C'est une déception. Voilà, on félicite l'équipe de San Pedro aussi qui a mérité la victoire. Mais bon, on pouvait faire mieux. Bon, c'est qu'à faire la différence, c'est réaliste.
Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, tire ici les leçons de la rencontre.
À l'origine, le match se joue où il y a la fête nationale. Sauf qu'à Boaké, pour des raisons de logistique, le stade avait été isolé pour permettre à l'armée de préparer le défilé. Donc on ne pouvait pas jouer là-bas. Alors on est venu dans la ville du Houphouët-Boigny, qui est symbolique de la coupe Houphouët-Boigny. On est venu donner la coupe à Houphouët-Boigny, donc on est venu ici. Ça s'est bien passé. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de public, mais on a eu un public quand même assez intéressant.
La nouvelle saison s'ouvre le 16 août prochain à Kourougou, dans la cité du Poro. César Yao, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et pour terminer cette édition, une page d'histoire vivante dans l'invité de la rédaction. Celui que nous recevons aujourd'hui est Moumoun Koulibaly, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Il partage avec nous ses souvenirs de la première célébration de l'indépendance dans la capitale de la région du Boaké en 1964, qu'il a vécu en tant que jeune écolier. Moumoun Koulibaly est interrogé par Mardoché Kouassi.
Monsieur Moumoun Koulibaly, alors vous êtes le coordonnateur général de la Fondation Les Mémoires de Boaké. Au-delà d'être coordonnateur général de la Fondation Les Mémoires de Boaké, vous êtes un témoin de la première célébration de la fête de l'indépendance à Boaké. Alors, au moment où on s'apprête à célébrer une deuxième édition à Boaké, quel souvenir vous revient de cette première célébration ?
En 1964, c'était la première fois qu'on faisait la fête de l'indépendance hors de la ville d'Abidjan. Donc Boaké a abrité la première édition de la fête de l'indépendance tournante. Et j'étais un jeune écolier du primaire et à ce titre-là, on a assisté au défilé avec nos enseignants qui nous encadraient pour l'accueil des autorités et même pour le défilé. Et donc avec mon souvenir d'enfant, c'était la première fois qu'on voyait le président Fouet de visu, en chair et en os. Donc on était surpris et en même temps on était émerveillés par tout ce qu'on voyait. Parce que la coloration de la fête de l'indépendance à cette époque-là n'est pas pareil que celle d'aujourd'hui. C'était la quatrième célébration seulement, la fête d'indépendance. Donc c'était quelque chose de très édifiant. Les parents, les autorités, l'armée et tout ce qui constituait les couches socio-professionnelles de la ville se sont mobilisés comme un seul homme pour vraiment accueillir toute la Côte d'Ivoire et célébrer vraiment cette fête de l'indépendance. Et donc, avec nos regards de gamins, on a vu les autorités de notre pays. Le président Félix Houphouët-Boigny, le président Philippe Grégoire Yassé, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, les ministres dont on connaissait le nom à travers nos enseignants. Donc vraiment, c'était vraiment très édifiant pour nous. Et c'est au cours de cette époque-là aussi, à l'occasion de cette célébration aussi, que Boaké a eu véritablement ses premières grandes infrastructures, comme les infrastructures routières. La nationale A3, qui traverse la ville de Boaké, venant d'Abidjan pour continuer à Katula, existait déjà, mais a été véritablement agrandie à cette occasion-là, en 1964. La route qui va relier la cathédrale de Boaké jusqu'au nouvel aéroport en 1964, qui passe par Gonfreville, a été aussi faite à l'occasion de cette fête. L'hôpital central de Boaké, qui est aujourd'hui le CHU de Boaké, qui était au commerce ici, qui était un hôpital colonial, est allé sur son nouveau site à cette occasion. Donc il y a plein d'infrastructures comme ça dont la ville a été dotée à l'occasion de cette fête-là.
Alors, racontez-nous un peu, au-delà des infrastructures et autres éléments que Boaké a acquis en son temps, racontez-nous un peu comment vous avez vécu le défilé.
Le défilé de la fête d'indépendance de 1964, les troupes qui ont défilé étaient placées sous le commandement du capitaine Tsemoko Fani, qui était le premier commandant du 3e bataillon de Boaké et le premier commandant de la région militaire de Boaké. Et il faut dire que l'armée ivoirienne n'avait pas sa configuration actuelle. C'était une armée naissante. Et les premiers officiers étaient des officiers qui étaient en service dans l'armée française avant qu'on ait l'indépendance. Donc les Tsemoko Fani sont les premiers officiers de l'armée ivoirienne. Donc il y avait l'armée de terre, essentiellement, les militaires du 3e bataillon, mais aussi les militaires qui étaient venus d'Abidjan, la gendarmerie nationale et surtout la garde républicaine qui terminait le défilé à l'époque avec leur chant d'hommage au président Fouet. Mais la grande différence, c'est que le défilé à l'époque n'était pas seulement un défilé militaire. Il y avait un défilé civil. Les forces vives de la nation défilaient. Toutes les corporations, l'administration, c'est-à-dire les fonctionnaires, les enseignants, le corps de la santé, les danses des différentes communautés défilaient. Et les femmes, les jeunes, les sportifs, tout cela défilait. Les élèves, à l'époque, ce sont nos aînés, les collégiens qui ont défilé, notamment les collégiens qui étaient issus des premiers collèges de Boaké, tous nos regards de colliers.
Mais l'indépendance, en son temps, au-delà du grand défilé, il y avait aussi la célébration dans la ville et à la maison. Oui. Racontez-nous un peu.
Ah oui, il faut savoir que la télévision ivoirienne est née en 1963. Mais avant la télévision, il y avait déjà la radio. Donc nos parents, à l'époque, étaient surtout radio. Donc l'indépendance se vivait à travers la musique qui était jouée le jour de l'indépendance. Et le défilé était retransmis en direct à la radio. Pour ceux qui ne se déplaçaient pas sur le site, ils écoutaient ça à la radio. Nos parents étaient vraiment fiers d'être indépendants. Donc nous qui étions enfants, on observait cette ambiance de fête-là à la maison à travers des repas que nous n'avons pas l'habitude de consommer. Donc vraiment, c'était une véritable ambiance de fête. La fête était ressentie jusque dans les familles.
Et en soirée, c'était comment dans Boaké?
La célébration en soirée dans les lieux de réjouissance était surtout destinée à nos parents. On était des gamins. C'était intéressant.
Mais aussi, c'est vrai que les parents sortaient et vous étiez à la maison, mais on mettait aussi les plus beaux vêtements, n'est-ce pas?
Ah mais oui, mais l'indépendance, vraiment, nous autres, on n'a pas la même perception de l'indépendance que nos parents à l'époque. Mais à l'époque, mais dis donc, c'était une fête. Hein? Ah oui, c'était une véritable fête nationale. La fête était ressentie jusque dans les familles. Les enfants, les femmes, tout le monde se parait de ses plus beaux habits pour célébrer ce jour-là. Le jour qui a consacré notre liberté, la colonisation française.
Plus de 60 ans après, vous qui avez connu cette époque-là, qu'est-ce qui reste de l'héritage de cette première célébration à Boaké?
Le véritable héritage est dans nos souvenirs. Mais les infrastructures physiques nous les voyons. Il y a l'hôpital colonial de Boaké qui existait sur l'actuel site de l'Imeo Capitole. Quand on regarde le bâtiment principal de cet hôpital-là, ça nous replonge à la souvenir de l'époque. Et les grandes voies. Vous voyez la rue qui va voir le défilé 17 août prochain, Reine Pokou. Ces différents éléments, tout ça, ça aide à nos souvenirs en fait.
Beaucoup de souvenirs. En tout cas, merci M. Moumoun Koulibaly de nous avoir partagé ces souvenirs-là. Et on vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance.
Merci infiniment. Merci.
C'est ici que nous refermons ce journal, mais avant le rappel de l'essentiel. La Côte d'Ivoire fête aujourd'hui ses 65 ans d'indépendance. Comme à l'accoutumée, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation à la veille de la fête. Entre bilan de son action, appel à l'unité et mesures sociales, plusieurs annonces ont marqué les esprits. Nous avons été dans la région du Béké, précisément à Boaké, qui accueille la cérémonie officielle de ce 65e anniversaire, avec notamment un défilé militaire et une fresque culturelle signée Georges Momboy. Et puis le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est en visite officielle en Turquie pour renforcer les liens économiques. Merci de votre fidélité. Très bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et excellente journée sur Radio de la Paix.